500 millions de personnes dans le monde auront développé diverses maladies par manque de sport entre 2020 et 2030. Je suis Mehdi Savary, ancien sportif de haut niveau et fondateur de la startup Bouge, la carte interactive pour trouver tout le sport. Avec le podcast Bleu Blanc Bouge, je reçois des invités qui mettent une plus grande dose de sport dans la vie des gens par des actions concrètes. Donc c'est parti, Bleu Blanc Bouge. Bonjour Estelle.
Bonjour.
Bienvenue sur l'émission Bleu Blanc Bouge. Avant de vous présenter, je vais te demander quel est le souvenir de Estelle Gamine lié au sport dans la ville d'où tu viens.
Oh là, il y en a plusieurs. Ça passe par, par plusieurs sports en fait. J'ai un peu zappé régulièrement sur les disciplines. J'ai aussi bien fait du volleyball que de l'athlétisme, que de la gym, que du tir au pistolet. Donc C'est assez varié, en fait.
D'accord. Et de quel âge à quel âge
ça s'est étendu ? J'avais 10 ans à peu près, 9-10 ans. Okay. Et puis ça s'est poursuivi jusqu'à mes 15-16 ans.
Super. Je te laisse, du coup, Estelle, te présenter pour nos auditeurs. C'est à toi.
Alors, je suis maire de Nogent-sur-Seine, dans l'Aube, une petite ville de 6000 habitants, qui a tout d'une grande, puisqu'en termes d'équipement sportif, elle rivalise avec brio avec des villes de 25 000 habitants. Je suis également vice-présidente de la communauté de communes du Nogentais et conseillère départementale de l'Aube.
Super, ça me rappelle un de nos invités, Marc Sanchez, avec cette triple casquette qui, on l'a vu, était un argument de poids, en tout cas pour innover dans la politique sportive.
Si on veut être efficace, il faut avoir l'essentiel des leviers à disposition, et en l'occurrence, la diversité des mandats est un levier essentiel.
Merci beaucoup pour cette présentation. Pour ceux qui nous écoutent, avant de rentrer dans des questions très politiques sportives, si on peut revenir sur ton parcours, donc tes différentes expériences passées, les enseignements que tu en as tirés pour les rôles que tu occupes aujourd'hui. Donc là, on les a en tête, ceux que tu viens de nous décrire. Est-ce que tu peux nous parler un peu de tes expériences passées ? J'ai vu que tu as fait de la collaboration parlementaire, tu as été aussi enseignante. Voilà. Est-ce qu'on peut revenir sur ces différentes années, ces dizaines ? J'ai pu voir ça.
Alors, tout a commencé par des études de droit, ce qui est assez classique.
Hein. On a ça en commun alors.
Bon, bah, très bien. J'ai passé le concours pour devenir magistrate. J'ai échoué.
Alors donc, moi, c'était celui d'avocat et j'ai échoué.
Ah bah, décidément. Donc l'occasion s'est présentée pour moi d'être bénévole au moment d'une campagne électorale, au niveau présidentiel, dans un parti politique. C'est comme ça que tout a commencé. Okay. Et tout s'est poursuivi.
Quel candidat ?
En l'occurrence, c'était Jacques Chirac. Voilà. Ensuite, suite à sa victoire, tout s'est poursuivi au niveau des législatives.
D'accord.
Et après, j'ai pu devenir assistante parlementaire à l'Assemblée nationale, fonction que j'ai exercée avec beaucoup de plaisir pendant 10 ans.
Ok. Si tu devais nous donner, 2-3 enseignements très pratico-pratiques pour quelqu'un qui nous écoute, qui aurait envie de devenir assistant parlementaire, qu'est-ce que tu as pu apprendre, mais qu'on n'apprend pas à l'école ? En fait, c'est un peu ça ma question.
On apprend à s'adapter, on apprend à travailler avec intensité, et on apprend aussi à écouter. Et je pense que c'est quelque chose qui nous sert toute la vie, parce qu'on ne peut pas répondre à des besoins si on ne sait pas écouter, et on ne sait pas avancer si on ne sait pas travailler. Et c'est vraiment ce qui a été assez fondamental pour un début de carrière. Ce qui m'a permis, dans le même temps, de commencer une thèse en droit et sciences politiques, de la terminer, et ensuite, je suis devenue enseignante à l'université.
T'as fait comment avec tous ces emplois du temps là ? Entre assistante parlementaire, finir une thèse ?
Comment j'ai fait ?
C'était la vie trépidante parisienne à fond.
C'était un peu ça. Et puis, c'est aussi l'avantage de la jeunesse, on va dire. Chaque chose en son temps. Aujourd'hui, je ne l'imaginerais plus comme ça. Mais à cet âge-là, on est capable de mener plusieurs choses en même temps.
Et donc, ça t'amène où après la thèse ?
C'est ce que tu... Alors, après la thèse, j'ai pu enseigner. Donc, j'ai enseigné à Sciences Po Paris et à l'Institut catholique de Paris.
Super. Et sur ce poste, quand même radicalement différent ?
Oui, totalement.
Tu me l'accordes, entre assistante parlementaire et enseignante. Sur la casquette enseignante, qu'est-ce que aujourd'hui, on a compris sur ton rôle assistante parlementaire, sur aujourd'hui les qualités que tu peux mettre à disposition du service public, en tout cas, de la mission publique. Sur le côté enseignant, c'est quoi que tu retiendrais ?
C'est plus compliqué. Je dirais que ce qui me sert aujourd'hui, c'est cette capacité à aller creuser une information, vraiment à chercher le fondement des texte et de la technique pour réussir à la mettre en pratique ou pour réussir à contourner aussi. Ouais, parce que parfois, il faut parfois contourner.
Ah, en start-up, on est sur des stratégies de contournement.
C'est très bien. Et le deuxième chose, c'est peut-être la pédagogie. Voilà. Et essayer de faire comprendre. Mm. Parce que le discours politique est trop souvent vide de sens. Mm. Et voilà, moi, ce que j'essaye de faire passer, c'est du fond. Alors, il faut de la forme, hein, bien sûr, ouais. Mais le fond est important. À aucun moment, ni dans les campagnes électorales, ni dans le quotidien, je ne souhaite aller vite dans les explications. Au contraire, je préfère prendre le temps de la réflexion, le temps de la discussion, même si les discussions ne sont pas toujours agréables, parce que débattre, c'est aussi entendre des choses pas agréables. Mais bon, ça fait partie du rôle. Et peut-être la troisième chose qui m'a beaucoup aidée, c'est de pouvoir m'exprimer en public.
Okay.
Alors, ça aide. Quand on a un amphi de 300 personnes, il faut se lancer.
Okay.
Donc, on y va.
Super. Et justement, là, il se passe donc combien d'années ? 10 ans sur l'enseignement ?
Oui, alors j'ai arrêté l'enseignement à partir du moment où j'ai été élue maire et conseillère départementale.
Ok, et justement, comment se passe l'amont, ta réflexion en fait, pour dire, ok, je... Et puis aussi la localité, tu es de Nogent-sur-Seine à la base ?
Oui, j'y étais depuis longtemps. Mon père était gendarme, donc on a beaucoup déménagé.
D'accord.
Et Nogent-sur-Seine a fait partie de ces dernières destinations, en fait.
D'accord, super. Ouais. Donc, pour revenir sur cette transition et ta réflexion surtout personnelle, c'est un choix de famille, personnel, professionnel, de passer de ce poste d'enseignante à ta fonction d'élu. Il s'est passé quoi dans ta tête ? C'est quoi le raisonnement ?
Alors, ça s'est fait par étapes. Première étape, j'étais élue, mais dans l'opposition.
Okay.
Donc là, j'ai continué mes missions d'enseignement classiques.
Oui,
et forcément, après, l'envie d'agir, l'envie de mener des actions dans l'intérêt général a pris le dessus. Comme tu le disais, c'est un choix de famille aussi, parce qu'on ne part jamais tout seul.
Bien sûr.
On embarque son conjoint, ses enfants, tout le monde.
Oui, puisque la vie d'un élu, ça ressemble plus à la vie d'un entrepreneur dirigeant, avec des grosses journées, avec beaucoup de personnes à charge.
Oui, 300 personnes en 3 jours.
Voilà.
35 heures, en 3 jours.
Exactement. Et pas mal de responsabilités vis-à-vis de ces personnes-là, à la fois de la population, à la fois des agents. Donc,
oui, parce qu'il y a 257 agents dans la ville de Nogent, 6000 habitants, un territoire rural, donc une vocation de centre-bourg très, très forte.
Super. Du coup, tu arrives en tant que maire, tu es quand même dans un territoire que tu connais, tu as été élu dans l'opposition. Comment ça se passe le début ton arrivée, le mandat, ça a été quoi tes 12 premiers mois, les décisions je ne vais pas dire les 100 premiers jours comme aux États-Unis, mais au moins sur une première année. comment tu t'es lancé, les défis que tu t'es lancé. J'ai cru comprendre que tu étais une femme de défis aussi, qui se lance des défis.
C'est ça. D'ailleurs, dans notre document de campagne, qu'on a appelé contrat de mandature et pas programme, ni projet, ni... parce qu'en fait, on a passé un contrat moral avec les habitants.
Okay.
Donc, dans notre contrat de mandature, on a justement listé 15 défis. Donc, tu parles de défis, oui, effectivement. Les 12 premiers mois, comme beaucoup d'élus à ce moment-là, 2020, crise Covid, donc élu mais pas en fonction.
Oui, bien sûr.
Donc on attend fin mai. Et comme tout est toujours un peu singulier ici, recours de l'opposition, les élections sont annulées. Donc on recommence tout.
Rebelote
en octobre.
Okay.
On est relégitimé avec 75%. Donc voilà. Donc laissons jour. Tout dépend si on parle de la première version ou de la deuxième. Ça dépend de la séquence.
L'entre-deux élections, t'as servi à quoi ? Qu'est-ce que t'as fait ?
Alors l'entre-deux élections, il y a eu entre l'élection et la décision du tribunal administratif.
Oui.
Donc là, on était parti plein pot.
Okay.
On avait été retenu par le Covid pendant 2 mois et demi, 3 mois. Donc on avait vraiment envie de se lancer.
Bien sûr, d'accélérer.
L'équipe était très très motivée.
Ok.
Et ensuite, une fois que la décision est tombée, on a réfléchi sur est-ce qu'on fait appel ou pas.
Okay.
On était parti pour faire appel, contester la décision. Et puis finalement, on s'est dit, allez, c'est l'électeur qui tranche.
Okay.
Et c'est parti.
Et tu t'es pas trompé.
Et non.
Vous ne vous êtes pas trompé, en tout cas, de l'ensemble de l'équipe. Super. Et du coup, à partir d'octobre, là, ça a été quoi les premiers projets ? On va revenir sur le sport, mais de manière générale, ce que tu retiens, en tout cas, cette phase qui était quand même encore dans le Covid, puisque encore en train de gérer des centres de vaccination, etc., comme tous les territoires. Qu'est-ce que tu peux nous partager sur cette période un peu particulière ?
Sur cette période, donc l'hiver, on va dire, 2020, ce qui a sans doute été le plus important pour nous, ça a été de mettre en place ce qu'on appelait des chéquiers commerçants.
Okay.
C'est-à-dire que pour accompagner le commerce de centre-ville, parce qu'on est très attaché au commerce de centre-ville, Donc, pour accompagner le commerce et soutenir aussi par rapport à toutes les difficultés qu'il y a eu, on a mis en place un chéquier où la ville a abondé très largement et qui a été mis en vente à un prix défiant toute concurrence pour les Nogentais.
Tarif donc, social, c'est ça. Quelque chose de très attractif.
Voilà. Okay. Et donc, avec des bons d'achat, des chèques utilisables dans les commerces du centre-ville.
Donc, tout le monde était un peu satisfait.
C'est ça. Parce que t'avais... Pouvoir d'achat pour les consommateurs, aide, accompagnement, on va dire, pour les commerçants. Donc oui, tout le monde était satisfait.
Ok. T'as retrouvé cette bonne pratique autour de toi sur tes homologues maires des villes alentours ou pas ?
Chacun a fait un petit peu comme il a pu. Donc, des bonnes pratiques, il y en a eu d'autres.
Ok. Très clair. On va rentrer un petit peu plus dans le détail sur, pour ceux qui nous écoutent, nos auditeurs, Bleu, Blanc, Bouge, imaginez la ville sportive de demain. Ce que tu peux nous dire, en tout cas, sur les aspects sportifs de ta ville et avec une série de questions. Alors, on ne fera pas le jeu de rôle parce que on est en face déjà d'une maire. Et du coup, tes réponses pourront évidemment alimenter ces jeux de rôle qu'on peut faire dans d'autres épisodes. Si je te parle de la grande cause nationale annoncée tout début janvier, qui porte notre nom de marque, Bouge.
Oui.
Donc, Bouge chaque jour. Qu'est-ce que tu en penses ? Question très ouverte, très large.
Forcément, on est totalement favorable à cette grande cause nationale. Non, mais c'est surtout qu'on a l'impression que ça confirme vraiment nos choix politiques.
Ok.
Parce que, justement, dans nos engagements et dans nos actions, on a voulu faire de nos gens sur scène la ville de tous les sports et de sport pour tous.
Okay.
Pourquoi ? Parce qu'on s'est rendu compte que, finalement, le sport pratique quotidienne, encadré, etc., était très important. Mais il y a toute une partie de la population qui a besoin aussi d'avoir un sport, pas à la carte, mais en suivi soit de santé, soit d'accompagnement à l'intégration sociale, etc. Donc, cette partie de sport pour tous a été quelque chose de très important pour nous et c'est ce qu'on a développé.
Ok, sur cette politique et donc cette impulsion que toi, tu as déjà, tu n'as pas attendu en fait la grande cause nationale, ça c'est évident. Est-ce que tu peux nous détailler un petit peu ces points que tu viens de nous citer, sport pour tous, ça se traduit comment concrètement ? Si on calcule bien, tu peux opérer en tout cas, et encore octobre 2020, tu étais quand même encore dans des préoccupations Covid, on est en début 2024. Voilà. Est-ce que tu as des exemples très concrets de choses que tu as pu faire ? Et bien sûr, ça peut capitaliser sur de l'héritage d'avant, des choses qui ont été mises en place, et tu nous l'as dit avant ton arrivée. Voilà. Est-ce que tu peux...
Alors, il y a plusieurs éléments que nous, on a mis en place très rapidement. Et là, pour le coup, c'est vraiment novateur.
Okay.
Le premier, c'est tout ce qui concerne le sport santé.
Ouais.
Voilà. Ça, c'est quelque chose sur lequel on a beaucoup travaillé.
Okay.
On a deux volets principaux qui sont d'une part la maison sport santé.
Ouais.
Donc ça, c'est c'est pas une maison physique en tant que telle, mais c'est un lieu qui permet finalement aux personnes qui sont en reprise d'activité sportive ou qui sont en affection longue durée, donc sur prescription médicale, de bénéficier de séances de sport dans un cadre un peu protégé. C'est-à-dire ce sont les éducateurs de la ville de Nogent, puisqu'on a la chance à Nogent-sur-Seine d'avoir des éducateurs sportifs.
Combien ?
On en a 4.
Ok. Pour 6 000 habitants.
Oui, plus d'autres personnes qui sont également 4 éducateurs, mais des maîtres nageurs. On a aussi d'autres personnes diplômées sur d'autres types de sports.
Okay.
Donc ça permet à ces personnes-là finalement de reprendre une activité sportive sans se sentir gênée par le regard des autres dans une association. Ce qui peut ne pas exister, mais la personne qui est fragile parce qu'elle sort d'une longue maladie ou qu'elle a des problèmes dans sa vie personnelle, elle a besoin d'être un peu coucounée sur le plan sportif.
Ouais.
Et donc cette maison sport santé bien-être a vocation justement à permettre à ces personnes-là de reprendre l'activité sportive et à l'issue, elles peuvent réintégrer ou intégrer une association.
Okay,
donc c'est l'objectif, en fait.
Là, vous êtes coordonnés. Donc, il y a des éducateurs, il y a des professionnels de santé, il y a des établissements spécialisés où ces personnes ont été pour leur maladie, par exemple, leurs affections longue durée. Comment se sont créés les liens, en fait
Alors, on a travaillé sur le réseau des professionnels de santé au niveau local.
Ouais.
Et nous, à Nogent, on a des médecins généralistes qui sont salariés.
Ouais.
Donc voilà, l'impulsion a été donnée assez rapidement.
Salariés de qui ?
De la ville.
De la ville.
Ah, oui.
Ah ok, d'accord. Super.
Oui, Nogent est atypique.
Ouais, génial. Oui, donc évidemment, en tant que salarié, là, tu mobilises tes ressources.
Et,
c'est ça. Ok, très clair.
Voilà. Donc ça, c'est le premier volet sport-santé. Mmh. Le deuxième, c'est avec les agents de la ville.
Oui.
En fait, on a des créneaux qui sont utilisés justement pour, là aussi, faire du sport Souvent, c'est pendant la pause méridienne.
Oui, c'est ça, ouais. Sur la pause déj-basket.
Voilà, okay. C'est ça. Donc, il y a une demi-heure de prise sur l'emploi du temps de la ville, une demi-heure sur la pause.
OK. Voilà. Ah, donc, c'est un
c'est un choix politique.
Concrètement, si tu devais faire un regarder dans le rétroviseur sur cette mise en place de l'action, alors, sport-santé, combien de bénéficiaires et combien de personnes en tout cas, combien de personnes sont concernées, le public, on va dire, que vous avez pu identifier, et combien ont passé le pas et l'ont fait. Et puis, pareil, sur les agents, ça représente quoi au total de tes agents, les personnes qui, alors ça ne veut pas dire tous les midis, mais qui le font quand même peut-être une ou deux fois par mois, trois, quatre fois par mois.
Alors, les chiffres exacts, je ne les ai pas. Ouais. Ce que je peux dire, en revanche, c'est que sur la maison Sport Santé, on est à peu près à 35-40 inscrits dans l'année.
OK.
Voilà, super. Ce qui est déjà pas mal, ouais, hein, puisque chaque année, il y a quand même un changement assez significatif. Et au niveau des agents, donc il y a 257 agents à la ville. On va dire qu'il y a entre 10 et 15% d'agents qui régulièrement utilisent ce créneau Sport Santé Bien-être.
OK, donc c'est utile. Et juste sur les personnes en affection longue durée, c'est des Nogentais ?
Pas uniquement.
Pas uniquement, voilà.
Oui, on est ouvert.
Bien sûr.
Là encore, on répond à notre mission de ville-centre.
Très clair.
Ça, c'est vraiment sur le volet sport-santé. Mmh. On a un volet aussi plus social. Et donc, en partenariat avec la Croix-Rouge et les Restos du Cœur, on a des créneaux qui sont réservés à ces bénéficiaires, en fait, à leurs bénéficiaires.
OK.
Et souvent, on
donc
fait...
Donc là, ils ne sont pas forcément licenciés dans des clubs ?
Non.
Vous avez réservé des créneaux.
Oui.
OK, ça m'intéresse parce que beaucoup de villes nous le partagent, témoignent de la saturation des créneaux parce que clairement elles sont entre guillemets trustées par les assos. Chaque année, on demande de nouveaux créneaux. C'est difficile de construire un nouveau bâtiment parce que ça coûte des millions, un nouveau gymnase. Donc il y a forcément une densité. Ça se bouscule en tout cas pour avoir toujours de nouveaux créneaux ou des subventions auprès des assos. Il y a une habitude quand même, les assos ont l'habitude de ça. Donc comment vous avez fait un peu relever ce défi ?
Alors sur les propositions, le volet social, en fait c'est simple, on fait de la randonnée.
Ouais.
Donc là, c'est facile.
Ouais, bien sûr.
Ou alors du vélo à assistance électrique.
OK. Voilà. D'accord. Donc là, vous profitez vraiment de l'extérieur. En tant que ville rurale. On exploite le grand terrain de jeu qui est l'extérieur.
Oui, on a un territoire qui est très agréable pour se promener, pour randonner, pour découvrir. Donc on en profite.
Et
ça règle le problème de l'infrastructure.
Et si tu devais le faire dans une zone urbaine, comment tu relèverais le défi ? Parce que cette idée est super bonne. Aller voir ses bénéficiaires, Croix-Rouge ou au Resto du Cœur, je trouve ça excellent. Comment tu pourrais impliquer, je ne sais pas. Disons qu'on imagine cette solution. On n'est pas à nos gens, on est dans une ville plus dense, plus urbaine. Comment on pourrait se projeter pour ceux qui nous écoutent et qui trouvent ton idée bonne, en fait ?
Là encore, c'est vraiment une volonté politique parce que là, ce sont les agents de la ville qui encadrent et qui accompagnent.
Okay.
Donc, c'est une mise à disposition d'agents pour un public ciblé. Mais j'ai envie de dire, tout le monde peut marcher, faire de la randonnée partout.
Ouais.
Que ce soit en ville, c'est peut-être moins agréable, mais on peut le faire quand même, ou à la campagne.
Mon point était plus de décider, de se dire, attends, c'est vraiment une cause d'accompagner ces personnes-là, pour le sport pour tous, l'accessibilité. Comment je fais pour prendre des créneaux d'équipement sportif ? C'est-à-dire pas en extérieur, pas de la pratique en extérieur, pas de la rando ou pas du vélo, mais plutôt avec tes agents, comme tu dis, qui vont aussi, on va aussi mettre à disposition des équipements intérieurs.
Alors, si on devait mettre des équipements à disposition, en fait, il y a des équipements qui sont sous-utilisés parfois la journée. Donc,
tu vas exploiter les créneaux inutilisés. Très clair.
Autant on sait que la piscine, c'est utilisé tout le temps,
ouais,
que ce soit par les écoles, par le collège, par des assos.
Okay.
Autant il y a des équipements qui, en journée, bénéficient beaucoup moins d'un public, même scolaire.
Okay.
Donc, c'est plutôt dans ce sens-là.
Moi, je retrouve sur la casquette bouge, dans le dispositif qu'on met à disposition de nos partenaires collectivités, ce sujet de la saturation.
Oui.
On suggère souvent, regardez les créneaux entre midi et deux, c'est pas toujours fréquenté,
oui,
ou alors d'autres créneaux parce qu'il y a d'autres équipements qui ne sont pas jusqu'à 23h ou qui ne sont pas ouverts à 7h du matin. On leur dit, regardez sur ces créneaux, il y a des leviers pour les pratiquants libres. C'est vrai que j'avais pas en tête ce type de pratiquant que tu cites, c'est une très très bonne idée. Et du coup, voilà, ceux qui nous écoutent en tout cas, c'est un bon exemple, je trouve, d'aller, si vous avez des créneaux inoccupés dans vos équipements, de pouvoir se rapprocher de ces associations dans une démarche sociale pour inclure ces publics déjà éloignés, défavorisés. très clair.
Et il y a une autre possibilité. Hein. On a une association qui propose des heures de yoga aussi dans un espace qui n'est pas un équipement sportif à la base.
Ouais.
Mais du yoga, il faut un tapis.
Bien
et ça s'arrête là.
C'est quoi l'espace?
C'est Eudes Macagno. C'est la maison des associations, mais c'est un espace de bureau, en fait, à la base, ouais. Où voilà, ça peut être utilisé pour des bureaux. Mais,
voilà, pensons aussi comme ça, pour ceux qui nous écoutent, il ne suffit pas d'un équipement. En tout cas, on peut imaginer du sport.
On peut trouver
dans
des
une
solutions.
Salle, on pousse des tables, des chaises, on met des tapis de sol. Ok, très clair. Est-ce que tu veux nous partager un autre
Troisième, grande cause nationale, troisième volet qui est impulsé à nos gens, c'est tout ce qui est équipement en extérieur.
Ouais. Et là, proximité, pour le coup, les équipements en proximité.
Ouais. Et là, pour le coup, on en a quand même aussi beaucoup, que ce soit les classiques Hobbyland, appelés parfois Citystad.
Ouais.
On a aussi tous ces parcs pour enfants.
Ouais. Les aires de jeu.
Les aires de jeu, sur lesquels nous avons pris la décision d'y ajouter des agrès pour les parents.
Ouais.
C'est-à-dire que les parents peuvent tout à fait faire du vélo en regardant...
Parce qu'on est souvent statique, soit sur le banc, soit debout sur nos téléphones.
C'est ça.
Ça, c'est le mauvais exemple que je donne.
Oui. Donc, il y a des zones d'agrès qui sont identifiées spécifiquement dans des aires de jeux pour enfants. Alors, il y a à la fois des agrès handi et des agrès classiques. Mais
okay.
On va dire, même quand on n'a pas de handicap, on peut utiliser l'agrès handi, il n'y a pas de souci. Hein. Donc, voilà, il y a ce genre de pratiques. Il y a tous les terrains qui sont mis à disposition aussi.
Okay. Mais ça, ce que tu nous dis, c'est déjà mis en place, c'est des choses que vous avez mis en place et ça continue de se mettre en place, des nouveaux équipements de proximité.
On l'a mis en place, ouais. Et on continue de renforcer.
Putain, mais avec le plan 5000 équipements, dans ce dispositif-là,
d'Agence
nationale.
Ouais. Okay.
Très clair. Et le retour terrain, parce qu'on sait que les collectivités n'ont pas forcément le moyen de se dire tiens, j'ai capté la fréquentation de tant de personnes sur des équipements en accès libre en extérieur.
Mmh.
Est-ce que tu as eu d'autres moyens d'avoir des retours? Tu cites un bon exemple, les parents avec leurs enfants sur des aires de jeu. Est-ce que tu as eu des exemples, des retours, des témoignages de parents qui disent oh, c'est super quand même ce que vous avez mis en place, ça nous permet de bouger en même temps que nos enfants bougent?
Oui, donc les zones d'agrès, il y en a une partie sur les aires de jeu d'enfants.
Oui.
Donc là, ça marche plutôt bien.
Okay.
Et il y a une partie aussi qui est un peu plus dans la nature.
Ouais.
Et là, c'est pareil, on voit souvent des amateurs de sport qui font un peu du coaching,
oui,
en individuel,
oui, bien sûr,
et qui prennent un petit groupe de 5 ou 6 ou 10 personnes,
ouais,
et puis ils vont faire des...
Des pratiques autogérées, auto-organisées.
Voilà, tout à fait.
Okay.
Donc, quand on voit du monde, on est content.
Très clair. Super, merci pour ces exemples.
J'interromps l'épisode quelques instants pour vous parler du courrier des maires sportifs. Un nouveau format écrit, totalement gratuit, qui vous sera envoyé par mail régulièrement. Je vous partage des réflexions, des points de vue et des informations utiles pour vous aider à développer les pratiques sportives sur vos territoires. Pour s'inscrire, c'est très simple. Rendez-vous sur maville-bouge.com/cdms. Ou bien, rendez-vous sur mon profil LinkedIn et cliquez sur le bouton « Courrier des maires sportifs ». J'ai hâte de vous écrire. Voilà, c'est fait. On peut reprendre l'épisode. Bonne écoute.
Une autre question que je voulais te poser, c'est quel conseil tu donnerais à un maire qui ne veut pas investir dans sa politique sportive, dans le sport, en fait, tout simplement. Il n'y croit pas. Lui, ça fait pas partie de ses domaines. Et j'en ai rencontré.
Ouais.
Et on essaie de challenger ses positions pour se dire, mais comment comment on peut penser ça? Donc voilà, toi, si tu étais en face, imaginons que je suis un maire qui ne croit pas au sport, qu'est-ce que tu me dirais?
Je ne chercherais pas à donner des conseils, déjà. Non, c'est dommage pour les habitants, mais voilà. En fait, à nos gens, on a la chance d'avoir tous les ingrédients pour avoir une bonne pratique sportive.
Mmh.
Et toutes les communes n'ont pas forcément ces ingrédients-là à la base.
Mmh.
Il faut d'abord une volonté politique, ça c'est évident. Donc si le maire n'a pas une volonté politique, c'est difficile après d'emmener les autres.
Ouais, okay.
Il faut un gros tissu associatif. À nos gens, c'est le cas. En 3 ans, on a gagné 7 associations, c'est-à-dire qu'on est aujourd'hui 37 associations sportives.
Okay.
Donc, on a gagné 7 associations en 3 ans, c'est quand même assez important.
Bien sûr. Et de combien de licenciés, à peu près?
Environ 3 000.
Les 7 associations?
Ah non.
Non.
Non, les 37.
Okay.
Et 37, 3 000 licenciés.
Ok. Ouais, 3 000 licenciés. Et tu as les chiffres sur la part d'habitants, de Nogentais, dans les 3 000?
Alors,
Parce que tu, encore une fois, on le rappelle, tu es centre-bourg, donc tu attires, évidemment, avec cette densité d'équipements sportifs sur lesquels vous avez investi. Donc, c'est juste un petit peu pour avoir un ordre d'idée.
La plupart des associations tournent à 60% de Nogentais et 40% du territoire.
Okay, c'est quand même,
alors,
c'est
pour quand certains, c'est un peu plus, pour d'autres, un peu moins. Mais voilà, en moyenne, on est à peu près à 60-40.
OK. Donc, ça pourrait nous faire du 2000, 2000 sur les 3000. Un petit peu moins peut-être, mais en tout cas sur 6000 en tout, c'est quand même une belle part de pratiquants, sachant que ça ne comprend pas tous les pratiquants autonomes qui peuvent faire des pratiques privées.
Tout à fait. Okay. Oui. Donc, tissu associatif très dynamique, des agents qui sont formés, qui sont compétents, qui sont éducateurs, qui sont diplômés. Donc ça aide aussi beaucoup. Mm. Et puis une volonté politique. Donc ça, ce sont les trois ingrédients.
Mais c'est plus ce point-là, moi, ce dernier point. Parce que
la volonté politique.
C'est l'idéologie, on va dire ça comme ça. C'est la philosophie autour du sport.
Oui.
Si la personne, elle ne l'a pas. Et je pense qu'il faut... Enfin, moi, ça ne me choque pas que tu puisses donner des conseils parce qu'en fait, finalement, tu as le terrain de jeu. On peut appeler ça des retours d'expérience, sinon. Mais en tout cas, je pense que c'est très sain de pouvoir se donner des conseils entre homologues, sur ce public d'élus que nous, on pratique depuis des années. Je pense que ça manque, le partage de connaissances et de retours d'expérience. Il y a des temps forts dans l'année, des grands salons, etc., qu'on connaît. Par contre, je pense que ce côté tac au tac d'un maire à un autre, pour lui dire « Non, mais en fait, tu fais une erreur », et c'est pas un jugement, en fait. On n'est pas dans le jugement de valeur, mais juste de dire « Pour la santé des habitants, je pense qu'il y a tout qui est organisé. Aujourd'hui, il y a toutes les études scientifiques qui le prouvent. Ne pas vouloir investir dans le sport, de faire bouger ses habitants, c'est pas forcément idéal. » Donc voilà, c'est juste revenir sur toi, qu'est-ce qui est ton moteur ? Et c'est ça qu'on peut transmettre à un maire qui finalement n'y croit pas.
Mon moteur sont les valeurs. Alors, les valeurs du sport, elles sont belles. C'est le dépassement, c'est l'effort, c'est le partage, c'est la discipline, c'est la rigueur. C'est tout ce que les jeunes aujourd'hui refusent de l'école ou des parents. Eh bien, ils vont le chercher dans le sport. En fait, le goût de l'effort, se lever le matin pour aller pratiquer un sport, respecter le coach... qui respecte plus les parents ni l'enseignant. Voilà, tout ça, en fait, aujourd'hui, il n'y a que le sport qui réussit à redonner un minimum de valeur là où les institutions classiques et traditionnelles, je ne vais pas dire sont en échec, mais ont du mal. Donc le sport, c'est un vecteur de citoyenneté aussi. Parce que les valeurs qu'on partage, les valeurs qu'on promeut dans le sport, sont les valeurs de la société, en fait. Qu'on a oublié, qu'on a mis de côté, parce qu'on préfère la facilité à l'effort, parce qu'on préfère le zapping à l'engagement, parce qu'on préfère se contenter de peu plutôt que chercher à se dépasser. Mais tout ça, c'est quand même ce qui nous fonde fondamentalement et ce qui nous ancre dans une société. Et aujourd'hui, en dehors du sport, encore une fois, on a du mal à contenir cette nouvelle génération, à élever les enfants aussi, à les faire sortir de... Tout le monde parle des écrans, mais il n'y a pas que les écrans.
On en parle ici souvent.
On en parle souvent. Bon, voilà, les faire sortir des écrans, leur donner des valeurs, leur inculquer des bonnes références aussi, la discipline, et puis finalement leur dire que l'autorité du coach, c'est quelque chose de naturel et normal. Voilà. Personne ne va revendiquer le fait d'être soi-disant sachant en étant licencié. Tout le monde va écouter l'entraîneur. Pourquoi on n'y arrive plus à l'école ? Pourquoi on n'y arrive plus dans la famille ? Pourquoi ? Voilà. Donc, tout ce volet citoyenneté, moi, je le retrouve dans le sport.
Très clair. Super. Eh bien, je ne sais pas si des maires qui ne croient pas au sport écoutent Bleu Blanc Bouge. Je n'y crois pas. Par contre, si vous êtes dans une mairie et que vous nous écoutez ici sur Bleu Blanc Bouge et que vous avez un maire qui ne croit pas au sport, je pense que ce petit passage, ça peut être pas mal de le partager. Merci beaucoup pour ta transparence, Estelle. En tout cas, tu prêches un convaincu. Tu l'as compris sur ça. C'est ce qu'on revendique. Merci pour cette réponse. Est-ce que, avant de te poser les deux dernières questions traditionnelles qu'on a pour cet épisode Bleu Blanc Bouge, parmi les actions que tu nous as citées tout à l'heure, quelle serait celle dont tu es particulièrement la plus fière et la méthode ? Parce que ici sur Bleu Blanc Bouge, on veut du concret, parce que parfois le discours dans les mairies, c'est assez abstrait, c'est du temps long. Donc sur une action, est-ce qu'on peut revenir sur vraiment ton cadre méthodologique ? Qu'est-ce que tu as fait ? Quel a été l'agenda ? Des coûts ? Comment tu as investi ? Si on peut faire juste cet exercice.
Oui, alors il y a plusieurs... je pense à plusieurs projets.
Ouais. Alors, un.
Un seul. Un non, seul. Ça, c'est pas possible.
Parce que sinon, on va dépasser dans le temps que tu nous as accordé.
Non, un seul, c'est pas possible. Mais je ferai la différence entre les actions qui sont accompagnées ou guidées et les actions libres. Okay. Les actions accompagnées, j'en vois plusieurs. Ouais. Donc, des actions qui sont encadrées, on va dire. Notamment ce qu'on appelle le sport en famille. C'est-à-dire qu'à partir de l'été, le soir, souvent le vendredi, le jeudi et le samedi, on organise des moments de rencontre. Okay. Encadré par des éducateurs de la ville, dans des lieux différents de la ville, souvent des parcs. Et puis, on leur propose une pratique de sport. Voilà, souvent une pratique un peu découverte, estivale et très agréable. Et on poursuit en fait en juillet et août avec des moments de partage en famille. L'objectif, c'est aussi de montrer que le sport peut se partager avec les parents. Mm-hmm. Parce qu'envoyer les enfants faire du sport, c'est une chose, mais leur montrer l'exemple et par l'éducation silencieuse, c'en est une autre.
Ouais. Ça fait penser notamment à ton projet sur les aires de jeu. Aussi.
Oui,
c'est
oui,
des moments
tout
en
à
famille.
Fait. Oui, okay. Tout à fait. Donc là, mais là c'est plus, ça peut être en famille, mais sur des sports voilà, plus ludiques.
Hein. D'accord. Voilà.
Donc ça, c'est quelque chose qui est mis en place et qui ne coûte rien, en fait.
Okay.
Parce que il faut, ça coûte en formation et en compétences des éducateurs.
Alors, mais... détaille-nous juste ça, justement. Parce que tu nous dis que ça ne nous coûte rien, ça nous coûte quand même. Et qu'est-ce que tu as mis en place pour que ce soit réalisé?
C'est-à-dire que... Ça ne nous coûte rien en termes d'infrastructure,
oui.
Parce que c'est à l'extérieur.
Okay.
Ce qui peut coûter éventuellement pour une collectivité, c'est le temps d'agent mis à disposition du public.
Ouais.
Donc forcément, l'agent, quand il déborde sur son temps de travail en soirée, il récupère le lendemain.
Tu as décidé de mettre combien de temps à disposition? Donc, d'investir combien de temps de
non,
tes
agents?
Non,
c'est pas comme ça que ça s'est passé, en fait.
Okay.
On a dit, il y a deux mois d'été, comment on peut occuper les familles qui ne peuvent pas partir en vacances et qui ont envie de faire du sport, ou alors qui reçoivent les petits-enfants pendant les vacances, ou des choses comme ça.
Ouais.
C'est comme ça qu'on a réfléchi.
Okay.
Et là, il y a eu des propositions de fait, et en fait, toutes les dates ont été validées.
D'accord, donc, combien? C'est quoi la volumétrie?
Par mois, sur juillet et août, ça doit être allez, quatre fois dans la semaine.
Quatre fois dans la semaine, ouais. Des créneaux de combien de temps?
Ça dépend du sport, environ 1h30, 2h.
Ok. Et c'est un ou plusieurs éducateurs? Enfin,
ça dépend du sport.
Ça dépend du sport.
Mais là encore, c'est... En fait, on
mais
compte
si tu
pas...
Mais si tu devais dire sur l'ensemble des sur les deux mois, si on compte quatre fois par semaine, 1h30 de moyenne, c'est ça. Après, sur combien d'agents ont été mobilisés, même si ce n'était pas chacun un créneau de chaque jour de semaine, ça a mobilisé combien de...
Ils ont tous été mobilisés sur des sports qu'ils aimaient, en fait.
Okay.
Ou parce qu'ils étaient disponibles tel ou tel jour. C'est assez souple. En fait, quand on parle de volonté politique, c'est aussi ça, la volonté politique.
C'est la volonté des agents aussi.
Oui, finalement. Exactement.
Les
agents sont déjà très moteurs et très, très volontaires. Mais après, lorsqu'on leur dit on veut faire un sport en famille avec un programme pour que les parents, les grands-parents, les enfants puissent faire du sport ensemble, découvrir et s'amuser.
Ouais.
Parce que c'est ça l'objectif aussi, c'est s'amuser. Qu'est-ce que vous proposez? Quand? Comment? Et voilà. Et c'est eux après qui ont travaillé sur ce sujet-là. Donc c'est aussi leur bébé, en fait.
Okay.
C'est pour ça que la volonté politique, en l'occurrence, là, c'est de donner la liberté aussi de pouvoir s'exprimer et de faire.
Juste méthodologiquement, pour que ceux qui nous écoutent comprennent bien, en combien de temps tu as déjà dessiné la feuille de route, on va dire, sur deux mois d'été, on mettra tant de créneaux. Et en combien, tu as dit, on les a tous remplis finalement rapidement. Ça s'est étendu sur combien de temps? La mise en place, avant que ce soit l'action concrète l'été. En combien de temps
En deux mois, c'était réglé.
En deux mois. Mmh. Donc c'est très rapide. Et tu as utilisé quoi? Vraiment des allers-retours internes, c'est-à-dire, tu as parlé à tes agents et vous avez dit, on a défini ce planning-là. Sur Excel ou autre, les outils que vous avez, et chacun est venu mettre en fonction de ses disponibilités et de ses congés, ça s'est fait comment? C'est vraiment du très concret, parce que
concrètement,
on devait l'appliquer demain, ça c'est une action qui prend deux mois, donc on pourrait se dire que quelqu'un qui nous écoute, qui a envie de mettre en place cette action, là il a juste la méthode livrée sur un plateau.
Ça a été très simple, en fait. On a dit on va ouvrir des créneaux pour les familles.
Okay.
Qu'est-ce qu'on peut proposer?
Okay.
Donc, qu'est-ce qu'on a comme équipement qu'on peut mettre à disposition? Est-ce qu'on peut organiser des tournois de beach chasseurs, des tournois de pétanque, ce genre de choses.
Okay.
Donc on a recensé, on a essayé de réfléchir pour que ça puisse plaire à tout le monde. On a essayé de travailler aussi sur l'originalité.
Ok.
C'est venu assez simplement, hein, par par le dynamisme du débat en interne
okay.
et les propositions.
Donc on est dans une mairie à nos gens qui communiquent rapidement entre la fonction élective et les directions métiers, les agents.
6000 habitants, on est forcément dans la proximité, on se connaît tous.
Oui, oui bien sûr.
Donc ça aide.
Okay.
Voilà. Et l'autre action dont on peut être fier, c'est aussi tout ce qui va tourner autour de ce qu'on appelait nos gens face et jeux. Donc ça va se passer en juin,
ouais.
comme on est terre de jeu, labellisé terre de jeu. Ouais.
Avec
passage de la flamme.
C'est pas rien.
C'est pas rien.
Pour une ville de 6000 habitants.
Exactement. Donc, on organise un week-end festif début juin.
Okay.
Nos gens font ces jeux. Et là, on va avoir beaucoup d'activités avec les associations, avec des sportifs de haut niveau aussi.
Okay.
Et puis, avec plein de surprises pour les nogentais.
Ok, là, ça ressemble à un dispositif qu'on connaît quand même dans les collectivités qui pourrait ressembler à un week-end forum du sport ou fête du sport, qu'on peut connaître des temps forts, en tout cas dans les collectivités, en juin ou en septembre.
Oui.
Mais par contre, c'est sur deux jours, là.
Oui.
Et puis, il y a le côté événementiel avec Paris 2024 et la flamme.
Oui.
Et ce sera pendant le passage de la flamme. On est d'accord.
Ah non, c'est pas possible.
Non, ça, d'accord. Okay.
C'est pas possible, ça.
Okay,
non, parce que le passage de la flamme, c'est le 13 juillet.
Okay. Ça fait une autre occasion.
De découvrir des sports.
Okay.
Les associations vont essayer de faire un petit défilé aussi, le 13 olympique.
Okay.
Donc voilà, il y a beaucoup de choses qui sont prévues.
Tu peux nous détailler ce qui est prévu pour le 13 juillet ou pas?
Mais non, c'est une surprise.
Ah,
il faudra revenir.
Ok, bon, bah, très clair. Merci beaucoup. Écoute, on arrive sur la fin. J'ai deux questions à te poser pour finir cet épisode. Est-ce que tu as des exemples, en tout cas des personnes qui t'inspirent, qui sont des leaders dans notre sujet, hein, qui est la promotion du sport, inclure le maximum de personnes, les publics éloignés, voilà, les recommençants, les pratiquants irréguliers. Est-ce que tu as une personne qui t'inspire et pourquoi elle t'inspire ?
La personne qui peut m'inspirer, c'est une sportive qui s'appelle Margot Boulet.
Okay.
C'est une championne d'aviron. Alors, son parcours est très atypique, puisque c'est une jeune femme qui doit avoir à peu près 35 ans, qui était engagée au GIGN, qui a eu un accident. Et donc, après une rééducation forcément compliquée, son père étant président du club d'aviron à Nogent, sur Seine, de fil en aiguille, elle a commencé à pratiquer l'aviron.
Super.
Pour avoir une médaille de bronze aux JO de Tokyo et pour être sélectionnée pour les JO de Paris. Donc voilà, son parcours est quand même très exemplaire parce qu'en plus d'être extrêmement déterminée, elle est la gentillesse incarnée.
Génial.
Donc, oui, ça c'est vraiment une belle personne.
Une belle personne,
une belle sportive. C'est quelqu'un que on a envie de rencontrer, de mieux connaître en fait.
Génial, bah, merci et on va se renseigner sur elle. Si on peut communiquer, en tout cas, c'est super. Et pour tous ceux qui nous écoutent aussi, c'est génial. Merci beaucoup. Et alors, dernière question, est-ce que tu as, pour nos auditeurs, pareil, une ressource? Alors, ça peut être un reportage, un documentaire, un film, un livre que tu as récemment vu, écouté, lu, à nous partager et dans le domaine, bien sûr, du sport. Alors, non, pas forcément dans le domaine du sport, mais qui a pu t'inspirer et dont les fruits peuvent s'appliquer en tout cas sur le sport.
Alors, c'est compliqué parce qu'en lecture, je suis en ce moment un peu débordée, donc je ne lis que mon auteur fétiche qui est Eric Emmanuel Schmitt, donc je pense forcément à son ouvrage Le sumo qui ne pouvait pas grossir. Je ne sais pas si tu connais.
Non, je ne connais pas.
Bon, bah, tu liras, tu verras.
On le mettra dans les notes de l'épisode.
Tout à fait. Et en film, je ne suis pas très cinéphile. En revanche, avec mes enfants, il n'y a pas très longtemps, on a regardé Karate Kid. C'est plutôt ça.
C'est
du sport. Et en fait, le point commun de ces deux supports, c'est évidemment les arts martiaux, mais c'est surtout la force du dépassement de soi et d'apprendre que la maîtrise de son attitude... le fait de dominer son esprit, eh bien, ça permet de faire avancer son corps. Et ça, je trouve que c'est quelque chose qui est très inspirant.
Le corps et l'esprit,
et puis maîtriser son attitude. C'est vrai que c'est Saint-Paul qui disait que l'esprit commande le corps.
Ouais.
Eh ben, on est dans les arts martiaux, on est sur le même principe, en fait. Dans le sport en général, mais les arts martiaux encore plus, je trouve.
Merci beaucoup, Estelle. qu'est-ce qu'on peut te souhaiter alors d'ici les JO, parce que ça va quand même être les JOP de Paris 2024. Oui. Ça va être un gros temps fort quand même pour vous, ce passage de la flamme. Oui. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter avant, pendant et puis après?
Eh bien, de réaliser les autres projets sportifs qui sont en cours au niveau de la ville de Nogent, c'est-à-dire la réalisation du complexe sportif.
Okay.
Et puis la réalisation du boulodrome couvert avant l'année prochaine d'entamer, on l'espère, la réalisation du deuxième local de l'Aviron.
Super. Donc on est en c'est hyper intéressant ce projet de boulodrome. On en parle peu. On est une nation bouddhiste. Je ne sais pas si ça peut se dire, mais, mais en tout cas, on rayonne à l'international. Oui. Les réseaux sociaux s'en emparent. Enfin, j'ai vu des tendances sur TikTok.
D'accord.
Il y a des champions qui en fait sont des influenceurs et partagent. Et je trouve qu'en France, il y a un vrai bijou hein, sur la pétanque. Donc, super sur cet investissement aussi. Et puis, l'aviron, on comprend aussi pourquoi.
Ben
avec,
voilà.
avec une grande championne. Génial. Et écoute, on te le souhaite en tout cas. Plein de sport, faire bouger tes habitants.
Oui.
Merci beaucoup. Et puis, à bientôt.
À bientôt. Merci à toi.
Merci.
Bravo. Vous avez écouté cet épisode de Bleu Blanc Bouge jusqu'au bout. Merci de le partager autour de vous, d'inscrire vos collègues ou vos proches et de mettre une note 5 étoiles et un gentil commentaire, c'est ce qui me fait ressortir dans les classements. Pour finir, n'oubliez pas que si vous avez des besoins en communication, en cartographie dédiée au sport, de votre ville ou autour de votre magasin ou de votre entreprise, toute l'équipe de Bouge va vous bichonner comme il se doit si vous nous écrivez sur mehdi@bouge.app. Je suis Mehdi Savary et je vous souhaite un max d'activités sportives dans votre quotidien.